Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Ludovic Auger.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nouvelle série consacrée cette semaine à la monnaie, à son histoire, à sa place dans nos économies modernes et à son usage politique. Demain, on se demandera si une société sans argent liquide est possible et surtout si elle est souhaitable. Mercredi, après la guerre commerciale, c'est la menace d'une guerre des monnaies que nous allons examiner. Jeudi, enfin, nous verrons que les crypto-monnaies, ces devises virtuelles, portent en elles un projet de société bien réel. Mais pour l'heure, revenons aux origines controversées de la monnaie. On entend souvent dire que la monnaie a été inventée pour surmonter les difficultés du troc, cette technique d'échange attribuée aux sociétés dites primitives, une approche largement remise en cause par les historiens et les anthropologues, mais qui constitue pour notre invité du jour un mythe fondateur de la modernité économique. Il est 14h sur France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons nous pencher sur ce mythe du troc en compagnie de l'économiste Jean-Michel Servet en duplex de Lyon, professeur honoraire à l'Institut des hautes études internationales et du développement, auteur de cet ouvrage « Les monnaies du lien » paru aux presses universitaires de Lyon. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera comme chaque jour des nouvelles de l'écho. Bonjour Jean-Michel Servet.
Votre maison me semble idéale, j'aimerais l'acquérir.
D'accord. En troc ?
En troc ! Pour la maison, je vous propose 4 bœufs, 60 kilos de blé et une charrette.
Ah, vous êtes sympa, mais je connais les tarifs. Je vous la laisse pour 7 bœufs, 40 kilos d'orge, 2 fourches et un vélo.
Waouh ! C'est un peu excessif.
Le toit est nickel. Allez, je vous lâche la maison pour 5 bœufs, un arc, 20 kilos de bonbons, une bonne surprise et 3 chèvres.
Ah, je peux pas 3 chèvres.
Ah, s'il n'y a pas 2 ânes, je veux 3 chèvres.
Mais je peux pas 3 chèvres.
2 brebis. Laquelle ?
La marron.
Avec les petites taches orange ?
Avec un lapin.
Marché conclu.
Super. Et c'est ainsi que l'argent fut inventé pour faciliter les transactions commerciales entre les braves gens.
Bonjour Jean-Michel Servet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vient d'assister à une scène de troc. C'était un extrait d'un épisode de la série YouTube, l'histoire racontée par des chaussettes. Alors cette vision d'une monnaie inventée pour remédier aux difficultés du troc, c'est aujourd'hui encore la vision dominante, Jean-Michel Servet ?
Alors, difficile de savoir si elle est dominante chez les économistes. Je crois que la plupart deviennent de plus en plus informés sur les apports de l'anthropologie et de l'histoire. Mais elle est un mythe que l'on trouve communément véhiculé, par exemple dans des publicités de banques ou d'autres instruments de paiement. Il est fait référence au troc et ça présuppose une scénette en quelque sorte comme celle que vous avez mise en scène, qui a été mise en scène. On la trouve par exemple dans une bande dessinée qui avait, je crois, été soutenue par le Crédit Lyonnais qui s'appelle « L'archipel des sans un rond ». Donc il y a dans la bande dessinée. C'est une ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est, on le verra dans la suite de l'émission, une invention extrêmement savante du XVIIIe siècle et qui est devenue un lieu commun à travers toute la planète.
Alors on va voir justement quelles sont les origines de ce mythe, et pour bien comprendre, peut-être qu'il faut commencer, Jean-Michel Servet, par définir ce que l'on entend par troc.
Alors, telle que la scénette est mise en scène depuis le XVIIIe siècle, on a l'idée qu'il y a deux individus, comme disent les économistes, deux échangistes, qui proposent chacun un bien, éventuellement un service, sans recours à la monnaie. C'est-à-dire c'est comme si c'était avec de la monnaie, mais sans la monnaie. Donc c'est ça qui définit, c'est-à-dire c'est l'échange interindividuel d'objets, et la forme la plus connue de cette sonnette est dans La richesse des nations d'Adam Smith, 1776.
Sur laquelle on va revenir, en effet, Jean-Michel Servet, mais simplement peut-être qu'il faut distinguer la valeur d'usage et la valeur d'échange d'une marchandise, ça permet de mieux comprendre le troc.
Alors, il est présumé que une marchandise a une utilité qui va lui donner une capacité d'être échangée. C'est la vision, notamment dominante à partir de la fin du 19e, puisque les économistes classiques, eux, avaient une vision de la quantité de travail socialement nécessaire pour produire le bien, et l'échange se passait selon la règle de la quantité de travail socialement nécessaire pour produire le bien. Mais on trouve cette idée d'utilité chez un auteur français tel que Anne-Robert Turgot, par exemple. Pour lui, c'est l'utilité du bien qui va fonder en quelque sorte sa valeur. On a déjà cette idée chez Turgot, alors que chez César Beccaria, c'est l'idée de la rareté qui va créer en quelque sorte, qui va être à l'origine de la valeur relative du bien. Mais ce qu'on voit à travers votre question et quand on étudie l'histoire de la pensée économique, c'est que cette question de la valeur du bien antérieure à la monnaie est une véritable révolution qui se produit au XVIIIe siècle, puisque jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, la pensée se fait en termes monétaires.
Et c'est pour ça que vous dites, Jean-Michel Servet, que le récit du troc, on va y revenir bien sûr, mais ce récit du troc a permis à l'économie politique de se constituer comme discipline ?
Alors, c'est un des ingrédients essentiels, à mon sens, de la constitution de l'économie en tant que savoir autonome d'autres savoirs sur la société, sur les humains. C'est-à-dire que il faut faire en sorte que la représentation de l'échange soit purement économique, que la détermination de la valeur soit économique. Antérieurement, il y a une dimension politique omniprésente, puisque l'on calcule le prix, et donc l'équivalent à la valeur, à partir d'une unité de compte qui est une unité de compte monétaire. Et c'est au XVIIIe siècle, le souverain, le roi, le prince, qui détermine la valeur des monnaies en unité de compte. Donc le pouvoir politique est essentiel à la détermination de la fixation des prix. Alors que dans le système smithien, Smith qu'on a évoqué, si on évoque la quantité de travail, on n'a pas besoin du pouvoir royal et de la monnaie pour fixer la valeur.
Cette vision du troc qui est ensuite suivie de l'invention de la monnaie, Jean-Michel Servet, on l'a vu, est parvenue jusqu'à nous. Mais alors que disent les historiens et les anthropologues auxquels vous faisiez allusion sur cette pratique du troc dans les sociétés primitives ? Quelle réalité de cette pratique du troc ?
Alors, il est évident, et moi-même, il y a une cinquantaine d'années, j'étais au Sénégal sur le terrain et j'ai vu l'usage d'une monnerie. J'ai vu des échanges sur la base du volume égal. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'échanges en nature de ce type. Le problème, la question essentielle, c'est de savoir est-ce que ce type d'échange est à l'origine de l'invention de la monnaie. Et si on se tourne du côté des historiens, des anthropologues, eh bien la réponse est non. C'est-à-dire que la monnaie n'est pas née à partir des difficultés de résoudre le troc. C'est un tout autre argument qui doit être trouvé. Et d'ailleurs, de manière assez provocatrice, hein, je dis la monnaie, qu'est-ce que c'est ? La monnaie, c'est ce qui fait l'interdépendance des activités humaines. C'est ce qui nous permet de nous interconnecter. C'est au cœur, au même titre que le langage. Et si on pense la monnaie comme étant cet élément d'interdépendance, on voit que la monnaie est un élément commun pour faire fonctionner les sociétés.
Et ce n'était pas le cas du troc ?
Alors le troc est dans la représentation des économistes, c'est sur une base individuelle. Tandis que là, on a le collectif qui est omniprésent à travers cette idée de commun. Et si on pense cette idée d'interdépendance et de commun, et si on regarde un certain nombre de fouilles préhistoriques, alors on va pouvoir faire remonter l'apparition d'éléments monétaires dans des sociétés très très anciennes. C'est-à-dire qu'on trouve par exemple des sépultures en Sibérie remontant à 34 000 ans dans lesquelles vous avez deux corps qui sont recouverts de perles fabriquées à partir de défenses de mammouth. Il y en a 10 000. ce qui représente d'ailleurs une quantité de travail pour produire ces petites perles avec les techniques de l'époque. Or, ça ressemble fortement à ce que j'ai désigné comme étant des paléomonnaies dans des sociétés océaniennes, africaines ou amérindiennes. On trouve même en Afrique du Sud, avec de l'ocre, des éléments travaillés d'œufs d'autruche. Et là, on remonte à 70 000 ans. Donc, ça pose en quelque sorte la question monétaire de façon radicalement différente.
Et alors, ce mythe, Jean-Michel Servet, ce mythe du troc dont vous parlez, prend sa source chez Aristote, comme on va l'entendre.
Voici donc à peu près tous les modes d'existence où l'homme n'a besoin d'apporter que son travail personnel, sans demander sa subsistance aux échanges ou au commerce. Nomades, agriculteurs, pillards, pêcheurs ou chasseurs. Toute propriété a deux usages, qui tous deux lui appartiennent essentiellement, sans toutefois lui appartenir de la même façon. L'un est spécial à la chose, l'autre ne l'est pas. Une chaussure peut à la fois servir à chausser le pied ou à faire un échange. Dans l'origine, l'échange ne s'étendait pas au-delà des plus stricts besoins, et il est certainement inutile dans la première association, celle de la famille. Pour qu'il se produise, il faut que déjà le cercle de l'association soit plus étendu. Dans le sein de la famille, tout était commun. Parmi les membres qui se séparèrent, une communauté nouvelle s'établit pour des objets non moins nombreux que les premiers, mais différents, et dont on dut se faire part suivant le besoin. C'est encore là le seul genre d'échange que connaissent bien des nations barbares. Il ne va pas au-delà du troc des denrées indispensables. À mesure que ces rapports de secours mutuels se transformèrent en se développant, par l'importation des objets dont on était privé et l'exportation de ceux dont on regorgeait, la nécessité introduisit l'usage de la monnaie, les denrées indispensables étant en nature de transport difficile.
Un extrait de La politique d'Aristote, lu par Cédric Fuentes, de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Jean-Michel Servet, chez Aristote, déjà le troc précède la monnaie?
Alors, il faut aller lire le texte en grec pour s'apercevoir que beaucoup de traductions déforment en quelque sorte ce qu'exprime Aristote. Quand il parle d'emploi dans ce passage de la
De la politique,
oui. 1257, hein, si les auditeurs veulent aller vérifier. Eh bien, le mot monnaie qui est employé, c'est en fait celui qui désigne une pièce de monnaie. C'est nomisma. Et l'étymologie de nomisma, c'est nomos, c'est-à-dire l'ordre. C'est un ordre donné à la suite. Ce n'est pas toutes les formes possibles de monnaie, comme par exemple les obéloi, qui étaient des broches à Sparte, ou ce genre d'éléments. Deuxième élément, autre élément qu'il faut quand même noter, c'est que plusieurs siècles s'écoulent entre l'invention des pièces, l'adoption des pièces par les Grecs, hein, sur imitation d'éléments qui venaient d'Asie mineure, et puis le moment où parle Aristote. Donc ce qu'il décrit, c'est une reconstruction théorique, imaginaire, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le texte, le mot troc est en grec métadosis. Alors, pour ceux qui ont fait du grec, dans métadosis, il y a dosis, ce qui veut dire don.
Et donc c'est une vision du troc beaucoup plus large que celle qu'on peut avoir aujourd'hui.
C'est même pas un troc, c'est un échange au sens large. Certains ont traduit, notamment Karl Polanyi, ce terme par partage ou grand partage. C'est-à-dire que quand on regarde le texte, il s'agit non pas d'échanges individuels, mais d'échanges de communauté à communauté, et c'est l'idée qu'il fallait partager. C'est l'idée. Il y a 37 termes ou quelque chose, plus d'une trentaine de termes en grec ancien pour dire donner. Métadosis, c'est un de ceux-là. Donc ça vous indique d'ailleurs une société radicalement différente. Je ne pense pas que dans les langues modernes telles que le français, l'anglais, il y ait plus d'une trentaine de termes pour dire donner. Hein, ça illustre tout à fait. Donc le passage d'Aristote, c'est de dire avant la monnaie, les gens étaient obligés de partager ce qu'ils avaient. Ce qui est radicalement différent même de l'idée du troc individuel, voire de l'échange spécifique comme échange commercial.
Et la traduction, Jean-Michel Servet, nous dit quelque chose de la relecture qui a été faite d'Aristote au XVIIIe siècle ?
Alors le problème, c'est que au XVIIIe siècle, on a traduit, on a pensé en quelque sorte simultanément comme étant le troc au sens où on l'emploie, c'est-à-dire c'est simultané comme traduction. Si vous regardez, il y a des. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les textes médiévaux qui traduisaient Aristote, on utilise non pas troc, mais on utilise permutation, permutatio. Le terme latin hein, qui est la traduction, c'est-à-dire c'est le fait de permuter les éléments. Or, il y a quelques années, j'ai fait une thèse de troisième cycle sur l'invention de la fable du troc. Donc j'avais été lire plusieurs centaines de textes du XVIe au XVIIIe siècle et j'avais regardé ce que c'était que la permutation, le terme qui était employé et qui précède hein, le terme. C'est-à-dire qu'on vous dit, avant la monnaie, les anciens pratiquaient la permutation. Et quand vous regardez ce que le monde dans lequel est pratiquée cette permutation, vous apercevez que pour certains, c'est un monde sans dieu, sans roi. Autant dire que pour des gens du XVIIe siècle, c'est un monde quasi imaginaire. Puisque vous avez un Louis Savot qui publie un ouvrage qui s'appelle le Denier Royal. D'ailleurs, on voit le lien entre monnaie et pouvoir royal. Et lui décrit une trentaine de monnaies, entre guillemets, primitives. Des coquillages, des éléments de ce type, des barres. Ce qui veut bien dire qu'il recherche à travers l'universalité de l'humain la présence de faits monétaires. On vous explique dans certains textes, ce sont des dieux, des rois mythiques qui ont inventé la monnaie. Donc on n'est pas dans le monde de la réalité.
Je crois qu'on peut se tourner vers Aristote, qui a défini la monnaie il y a déjà plusieurs millénaires, et cette définition, elle n'a pas changé, elle est toujours valable. Alors, la monnaie, c'est trois choses. C'est premièrement une unité de compte. Deuxièmement, la monnaie, c'est un moyen de stocker de la valeur. C'est-à-dire que quand vous voulez faire des économies, vous n'allez pas stocker des poulets, du blé, etc. Donc il vous faut quelque chose qui soit pas trop encombrant et qui se conserve facilement. Donc c'est à la fois, premièrement une unité de compte, deuxièmement un outil de stockage de la valeur, et troisièmement, un outil qui permet d'effectuer des échanges.
Voilà, on entendait Jacques Trauman, l'ancien directeur de Paribas France, nous parler des trois fonctions de la monnaie selon Aristote. C'est encore aujourd'hui la meilleure définition que l'on peut donner de la monnaie, Jean-Michel Servet ?
Alors malheureusement, je suis obligé de contredire ce qui vient d'être dit, ayant pas mal travaillé sur le texte d'Aristote. Chez Aristote, la monnaie, est unité de compte et moyen de paiement. Mais la fonction de réserve n'est pas propre à numisma, à la monnaie, à la pièce de monnaie. C'est propre au métal avec lequel est fait la monnaie. C'est-à-dire, d'ailleurs, si vous regardez bien des grands auteurs tels Aristote ou Karl Marx, la fonction de réserve est subsidiaire en quelque sorte. Hein. Ce qui définit la monnaie chez ces deux grands penseurs, c'est le paiement et le compte. Mais c'est vrai que dans tous les manuels d'économie, donc on peut pas en vouloir à ce banquier qui a sans doute eu dans sa jeunesse des cours d'économie de citer la fonction de réserve. La fonction de réserve dépend des deux autres fonctions et dépend du support.
Et la fonction de réserve est notamment défendue par le philosophe John Locke. Je voudrais qu'on vienne justement, Jean-Michel Servet, à la vision du troc qui va s'exprimer dans les premiers écrits sur le commerce, à la fois au XVIe siècle et puis ensuite au XVIIe siècle.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire chez John Locke, justement, John Locke est un penseur de la propriété, privée. Donc effectivement, pour lui, le caractère essentiel de la monnaie est d'être un bien durable, conservable et qui assure une fonction de réserve. Il dit des mûres, hein, des fruits, là, ne peuvent pas être conservés. Donc ce qui explique l'usage des métaux précieux. D'ailleurs, ce qu'on ignore souvent, c'est que John Locke et un de mes collègues, André Tirant, a publié ses textes de John Locke. Il a écrit sur le taux d'intérêt, il a écrit sur les monnaies, il a écrit sur les métaux. Enfin, donc c'est un spécialiste, il connaît bien la chose. Alors, ce qu'il y a d'intéressant par rapport à Adam Smith, qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est qu'on va trouver chez John Locke une préfiguration de l'image du troc développée ensuite par Turgot, Smith, Beccaria, Stuart. C'est-à-dire que l'on trouve, dans les traités du gouvernement, on trouve cette image. Il y a un Indien, un Amérindien, qui rencontre un trappeur et ils vont échanger. Et quand ils font cet échange, cet Européen et ce sauvage, entre guillemets, local, eh bien, ils vont pas discuter du prix, en quelque sorte. Ils vont pas. La Sénette n'a aucun, disons, vision de la quantité de travail, de l'utilité, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'important pour Locke dans ce premier échange? Eh bien, c'est que chacun se reconnaît réciproquement possesseur, propriétaire du bien qui va échanger avec l'autre. C'est là le but de cette scénette.
C'est encore une façon de défendre la propriété privée.
Exactement. Et l'autre exemple qu'il donne, c'est il se sert d'un auteur d'origine inca au Pérou et il parle de deux sauvages entre guillemets qui échangent et qui se reconnaissent réciproquement possesseurs de ce qu'ils vont échanger. Mais il n'y a pas de réflexion sur la théorie de la valeur. On est plus d'un demi-siècle avant l'invention spicienne, etc., qui est dans les années 1760.
Mais justement, on parle encore assez peu de la question du troc dans les écrits au XVIe et au XVIIe siècle, alors même que l'argent est de plus en plus important dans la société, et le mot troc a même une connotation tout à fait négative au début du XVIIe siècle.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme beaucoup de termes qui ont été employés par l'économie, ils viennent de la langue, entre guillemets, vulgaire, c'est-à-dire celle des marchands. Et effectivement, quand on cherche les usages de troc, troqueur, il y a par exemple un conte libertin, je dirais, de La Fontaine, qui s'appelle « Les troqueurs ». Et les troqueurs, c'est deux maris qui échangent leurs femmes. Donc c'est ce genre de choses. Ça a donné lieu d'ailleurs à une pièce de théâtre au XVIIIe siècle. Donc vous voyez le sens de troc. D'ailleurs, on a cette trace en français parce que en français, troquer au sens où échanger en nature, se disait barater. Et vous voyez le résultat, comme mot, on a gardé uniquement baratin. Donc on a cette image, en quelque sorte, très négative, qui vient de ce monde de la marchandise que beaucoup...
C'est lié à une vision négative des marchands, des commerçants.
Voilà, c'est pour l'ensemble de la société, pour on reprend ce
siècle.
Vocabulaire, voilà, c'est ça. Et qui donc le sens est large. D'ailleurs, quand le mot troc est employé dans l'encyclopédie, ils le définissent. Ils disent un troc ou un échange en. Donc l'encyclopédie d'Alander d'Ivrault. Ce qui veut dire qu'à l'époque, tout le monde ne comprenait pas le mot. Donc on était obligé d'en donner une définition. Cet élément. Donc le mot va très très vite l'emporter avec, le succès de Smith et des autres économistes.
Et alors justement, ce récit de l'échange primitif qu'on décrivait avec John Locke va prendre un sens nouveau au XVIIIe siècle, donc avec Turgot et avec Adam Smith, Jean-Michel Servet.
Alors, ce qu'introduisent les économistes du XVIIIe siècle, du milieu du XVIIIe siècle, c'est précisément la notion même d'échange, de discuter de la situation de ceux qui échangent, qui sont des individus. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est là où on voit la force critique de l'économie dans la société dans laquelle elle est produite, d'une certaine façon. La société du XVIIIe siècle en Europe, c'est une société hiérarchique, qui est, pour faire des comparaisons, c'est quasiment comme une société de caste, la distinction entre les ordres d'anciens régimes. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette scénette du troc? Eh bien, d'une certaine façon, ceux qui échangent, pendant que le temps de l'échange, se reconnaissent comme réciproquement égaux. C'est extraordinaire. Ils n'ont pas besoin du roi non plus pour régler leur échange. Donc je veux dire, ça vaut l'exécution capitale d'un souverain tel que les Anglais l'ont pratiqué au XVIIe et les Français sous la Révolution. C'est extraordinaire. C'est-à-dire montrer une société qui commence à fonctionner par l'échange, sans référence à un pouvoir politique. C'est là qu'on peut dire d'une certaine façon, les économistes à l'époque sont révolutionnaires.
Et alors écoutons justement, Jean-Michel Servais, ce qu'écrit Adam Smith dans La richesse des nations en 1776.
La division du travail, une fois généralement établie, chaque homme ne produit plus par son travail que de quoi satisfaire une très petite partie de ses besoins. La plus grande partie ne peut être satisfaite que par l'échange du surplus de ce produit qui excède sa consommation contre un pareil surplus du travail des autres. Ainsi, chaque homme subsiste d'échange ou devient une espèce de marchand, et la société elle-même est proprement une société commerçante. Mais dans les commencements de l'établissement de la division du travail, cette faculté d'échanger dut éprouver de fréquents embarras dans ses opérations. Un homme, je suppose, a plus d'une certaine denrée qu'il ne lui en faut, tandis qu'un autre en manque. En conséquence, le premier serait bien aise d'échanger une partie de ce superflu, et le dernier ne demanderait pas mieux que de l'acheter. Mais si par malheur, celui-ci ne possède rien dont l'autre ait besoin, il ne pourra pas se faire d'échange entre eux. Le boucher a dans sa boutique plus de viande qu'il ne peut en consommer. Le brasseur et le boulanger en achèteraient volontiers une partie, mais ils n'ont pas autre chose à offrir en échange que les différentes denrées de leur négoce. Et le boucher est déjà pourvu de tout le pain et de toute la bière dont il a besoin pour le moment. Dans ce cas-là, il ne peut y avoir lieu entre eux à un échange. Pour éviter les inconvénients de cette situation, tout homme prévoyant dû naturellement tâcher de s'arranger pour avoir, outre le produit particulier de sa propre industrie, une certaine quantité de quelques marchandises qui fût, selon lui, de nature à convenir à tant de monde que peu de gens fussent disposés à la refuser en échange du produit de leur industrie.
Voilà, ce qu'Adam Smith met ici en lien, Jean-Michel Servais, et qui peut nous interroger, c'est à la fois d'un côté la fable du troc, et de l'autre, la question de la division du travail.
Alors, c'est au cœur de l'ouvrage d'Adam Smith, effectivement, la division du travail. Mais ce qui est très frappant, c'est que, c'est un génie, hein, d'une certaine façon, Adam Smith. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement documenté. Alors, on trouve cette idée du paiement grâce à une substance, etc. Et puis, par ailleurs, dans La richesse des nations, vous avez trois exemples qui montrent qu'on peut fonctionner sans ce support intermédiaire. Et il donne l'exemple du tabac en Virginie, de la morue à Miquelon et même des clous en Écosse. Il était lui-même écossais. Et comment ça fonctionne, les échanges avec des éléments de ce type, c'est fondé sur le crédit. C'est-à-dire que, et toute l'Europe fonctionnait sur la base d'une avance notamment saisonnière, c'est-à-dire les paysans réglaient leurs dettes en céréales et autres produits à la Saint-Martin ou à des périodes de ce type. Le crédit permettait de fonctionner sans monnaie. Et c'est dit par Adam Smith, or par ailleurs, il construit en quelque sorte la légitimation de la monnaie comme un intermédiaire. Indispensable. Alors, c'est aussi dû au fait que, en Écosse, il y avait un développement considérable des billets de banque à son époque, qui était assis sur les dépôts de métaux précieux qui étaient faits chez les banquiers. Donc, mais il y a une vie, comme souvent chez ces grands auteurs, vous avez en quelque sorte le dogme qu'ils vont produire, qui va se développer, etc. Et puis vous avez en quelque sorte la critique du dogme qui est contenu dans le texte lui-même.
Et cette histoire du troc va s'enraciner ensuite au 19e siècle avec les économistes marginalistes. Quelles sont les difficultés du troc qu'ils mettent en valeur, Jean-Michel Servais?
Par exemple, vous avez l'ouvrage là, traduit sous le titre La monnaie de Stanley Jevons. Il donne au début l'exemple d'une cantatrice française qui s'est produite dans le Pacifique et qui a été payée avec des ignames, des cochons, des poulets, enfin une série d'objets. Et Jevons se dit au Halle à Paris, elle aurait pu obtenir contre cette quantité de produits une somme équivalente à, je me souviens plus, le montant en francs. Et là, elle dit, elle ne savait que faire et elle a donné les ignames à manger aux cochons, enfin, etc., etc. Donc, il se moque, disons, de l'incapacité, du dysfonctionnement du système. En fait, ce que Jevons ne comprend pas, parce que c'est bien plus tard que les anthropologues vont montrer la réalité de ces paiements avec des supports différents, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on a donné à cette chanteuse qui s'est produite dans le Pacifique ? On lui a donné des éléments qui lui permettaient d'obtenir d'autres éléments dans des sphères d'échange qui sont cloisonnées. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en tête, c'est-à-dire que nous, on pense à une fongibilité générale de la monnaie, à une universalité de l'usage d'un instrument de paiement qui peut, par conversion, tout acheter. Dans la plupart des sociétés humaines, il y a un cloisonnement des échanges qui s'opèrent. Et donc, il faut avoir en quelque sorte des moyens de paiement différenciés afin de pouvoir se comporter socialement. Cet exemple n'est pas inventé. Hein. Des cantatrices se produisaient comme ça dans des opéras qui étaient situés dans des lieux très très exotiques qui ont été construits par des gens qui ont fait fortune sur le caoutchouc, etc. J'ai vu ça l'année dernière à Manaus, par exemple.
Mais alors, ces économistes comme Jevons que vous avez cité ou encore Menger mettent en avant effectivement les inconvénients du troc. Ils parlent par exemple de l'absence de moyens de subdivision, de l'absence de mesure de valeur homogène. Et selon eux, la monnaie est inventée par les individus grâce à tous les avantages qu'elle permet.
Oui, l'argument, il est le fait que vous ayez un moyen supposé universel pour tout acquérir et pouvoir fractionner le paiement. Si vous voulez, c'est ce qui était dit au début de l'émission, payer avec un mouton suppose en quelque sorte quelque chose d'une valeur assez élevée. Alors là, quand on a jusqu'au fractionnement, et l'exemple est les pièces de cuivre, les pièces d'argent, les pièces d'or, on a bien l'image d'un fractionnement potentiel pour payer même des éléments les plus insignifiants, hein, je dirais. C'est cette idée, c'est-à-dire qu'ils ont en tête ce qu'est le système monétaire, le système numismatique, en quelque sorte, fondé sur des moyens de paiement différents.
Mais alors, selon les marginalistes, au XIXe siècle, toujours, quel est le rôle qui est joué par l'État dans l'invention de la monnaie ?
Alors, vous avez cité il y a quelques minutes Menger, très explicitement dans son article sur les origines de la monnaie, Menger dit que le rôle de l'État en matière monétaire est quelque chose qui est apparu beaucoup plus tard que l'invention de la monnaie elle-même. C'est indiqué à la fin de son article, et c'est cette idée-là. Puisque de façon évidente, la monnaie sert dans le champ du marché, je veux dire dans les sociétés depuis assez longtemps, mais notamment dans les sociétés contemporaines. Et puis la monnaie est un instrument fiscal qui est au cœur du prélèvement des impôts et de la redistribution du paiement de la dépense qui est faite par les États. Et cette idée, elle va être centrale dans un auteur qui s'appelle George Friedrich Knapp, 1905, Théorie étatique de la monnaie. C'est-à-dire que lui va affirmer qu'il n'y a de monnaie que si elle est validée par un État.
C'est l'idée d'une monnaie comme outil de contrôle.
De contrôle et puis aussi de mise en circulation d'un ensemble de valeurs. D'ailleurs, ce qui est très très intéressant à noter, Knapp est tombé en quelque sorte en désuétude, pour le citer, parce que le régime d'Adolf Hitler s'en était emparé pour dire voilà un Allemand qui a une pensée moderne, enfin l'État, etc. Donc il avait été mis beaucoup en avant. Donc après, il n'était plus possible, politiquement, de façon correcte, de citer Knapp. Mais en fait, les gens de la Banque centrale allemande après la Seconde Guerre mondiale, et ça va durer pendant plusieurs décennies, ont été formés à travers l'idée knappienne, il n'y a de monnaie que s'il y a un État. Donc comme il n'y a pas d'État européen, il ne peut pas y avoir de monnaie européenne. C'était un peu l'idée. Donc vous voyez les résonances hein, de théories de ce type.
Allez-y, je vous en prie.
Il a fallu très très longtemps, en quelque sorte, pour que les Allemands déconnectent, en quelque sorte, cette idée de l'État européen tout puissant et de la question monétaire. Knapp est le gendre du premier président de la République fédérale allemande. Il n'était pas du tout nazi, enfin, etc. Mais il a été récupéré, en quelque sorte, par le régime nazi. Ce qui fait que Keynes l'avait fait traduire, d'ailleurs, parce qu'il pensait que c'était quand même une pensée forte. Et je pense que pour comprendre la monnaie, effectivement, il faut marcher sur ses deux pieds. J'en rajouterai même peut-être les communs qui sont troisième dimension, mais il faut marcher avec le marché et il faut marcher avec l'État. Et donc, je pense que c'est très, très important la pensée knapienne, parce que effectivement, le développement monétaire se fait aussi par la fiscalité.
Mmh, et alors, pour en revenir, Jean-Michel Servet, aux marginalistes, ce qui est intéressant de noter, c'est que par rapport à ce qu'avait développé, par exemple, John Locke, ce qui est développé par Adam Smith et plus tard par les économistes du 19e siècle, c'est cette idée selon laquelle la division du travail est première, et c'est ensuite que vient le troc et enfin la monnaie.
Alors, il y a un parallèle, il n'y a pas une division du travail avec le premier troc tel qu'il est imaginé, puisque c'est un surplus qui est échangé. La division du travail fait que explicitement vous produisez des biens en vue de l'échange. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est quand on lit la littérature anthropologique, par exemple, sur les îles du Pacifique, on voit très bien qu'il y a des divisions du travail, de la répartition des productions entre les îles du Pacifique. Il y a des sphères d'échange très très larges, et puis vous avez différentes communautés qui se trouvent spécialisées dans la production de tel et tel bien. C'est ce que Maurice Godelier, par exemple, a étudié, a montré à partir de la monnaie sel des Barouya, des Highlands de Nouvelle-Guinée.
Et alors le troc va aussi être repris par Marx et Engels pour élaborer un autre mythe, celui du communisme primitif et du matriarcat primitif. C'est en tout cas ce que dit l'anthropologue David Graeber dans son ouvrage sur la monnaie. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision, Jean-Michel Servet ?
Alors, effectivement, face à la fable du troc, Marx parlait de Robinsonade. Ils vont inventer l'idée d'un communisme primitif, en quelque sorte, hein, qui s'oppose littéralement à cette fable des échanges inter-individus. Et Marx va écrire que les premiers échanges se déroulent aux confins des communautés. À l'intérieur des communautés, on est sur la base du partage et on va échanger des surplus aux frontières de ces communautés.
Donc c'est un contre-mythe qu'il propose ici.
Voilà, c'est un contre-mythe. Ce que l'on sait sur les échanges qui peuvent se dérouler, pour autant qu'on puisse se les représenter, trouver des traces, etc., j'ai évoqué il y a quelques minutes les sphères d'échange avec des spécialisations régionales. On les trouve dans les temps préhistoriques en Europe, comme on les trouve en Afrique, dans les zones amérindiennes ou en Océanie. Donc ça, c'est un élément. Mais ce qui est très très intéressant, c'est le rapport dans certaines populations à la propriété privée. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de biens qui sont appropriés, qui sont propres à l'individu. Et dans nombreuses sociétés, on remarque qu'au décès de la personne, ils sont détruits, ils sont brûlés, ils sont enterrés pour pas qu'il y ait de processus d'accumulation. Je pense qu'un certain nombre de sociétés ont pensé les dangers de l'accumulation. D'autres les ont réalisés.
Grab that cash with both hands and make
Vous écoutez Monet des Pink Floyd et c'est la suite d'Entendez-vous l'écho sur France Culture. Nous poursuivons notre réflexion sur l'imaginaire du troc en compagnie de l'économiste Jean-Michel Servet. Alors quelles sont les fonctions de ce mythe dont les récits vont se multiplier au XVIIIe siècle, Jean-Michel Servet ? On veut propager l'idée que les individus sont utilitaristes et intéressés ?
Alors, c'est au cœur de cette représentation smithienne ou celle de Jevons ou celle de Menger, hein, ça parcourt, d'où la critique de Marx, Engels face à cette fable, hein, dès le 19e siècle, on avait quand même un certain nombre d'éléments pour critiquer la fable, hein, puisqu'il y avait l'école historique allemande que Marx a beaucoup critiqué mais beaucoup utilisé, qui donnait une riche documentation en quelque sorte sur les variétés de monnaie existantes. Alors, si ce mythe a été créé, si ce mythe s'est développé, s'il a eu autant de succès au sein de l'économie et bien au-delà dans la société, c'est qu'effectivement, il était idéologiquement très très utile pour légitimer le fonctionnement de la société. On fait fonctionner. Alors, la stratégie des économistes, et jusqu'à nos jours d'ailleurs d'une certaine façon, c'est de penser que la société fonctionne bien si il y a un équilibre des intérêts privés, et donc il y a les marchandages qui est donc le troc est véritablement l'illustration de cette pensée.
C'est l'idée que ce sont vraiment les relations d'intérêt entre les individus qui règlent l'ordre social.
Exactement, et ceci est implicitement contre la modalité centrale de fonctionnement de l'économie encore au XVIIIe siècle, hein, qui est en quelque sorte non dit, mais qui était la réalité de l'époque, qui était notamment les corporations d'Ancien Régime. Les corporations d'Ancien Régime, c'est et qui n'excluaient pas l'échange, le commerce, etc., était un ordre moral. C'était un ordre, il y avait un ordre moral, on ne pouvait pas faire fonctionner la société uniquement sur les intérêts. Et puis, il fallait aussi assurer dans cette société, par exemple, du XVIIIe siècle, compte tenu des difficultés des transports, des temps de transport, etc., une régularité de l'approvisionnement. De l'approvisionnement en matières premières, en produits finis qu'on consommait, et je dirais même de l'approvisionnement en main d'œuvre. Donc c'est une société organisée avec un ordre moral, et l'économie se constitue pour faire éclater ce monde-là.
Avec cette idée que développe Smith, que c'est en poursuivant son propre intérêt que l'on sert le mieux l'intérêt général. Donc ça exclut de fait le rôle de l'État.
Oui, alors pas complètement. Ça, c'est un élément. Les libéraux type Adam Smith, contrairement à souvent ce qu'on nous raconte, n'ont rien à voir, à mon sens, ou peu à voir avec les néolibéraux. Pourquoi ? Parce que Adam Smith pense qu'il est indispensable qu'il y ait une puissance publique. Au maximum, les intérêts privés, le fonctionnement, mais tout ne peut pas fonctionner sans un État.
Et Adam alors, quel Smith. Est le rôle de l'État dans la vision d'Adam Smith ?
L'État, c'est pour empêcher que des monopoles se mettent en place et prélèvent au détriment. Ce que dit Adam Smith, par exemple, il dit « Une fois que vous avez fait un canal entre Londres et Édimbourg, vous n'allez pas en faire la concurrence un deuxième. » Donc, il faut que l'État soit propriétaire, par exemple, de canaux et de routes importantes, alors que le privé peut l'être de petites infrastructures. Mais des grandes infrastructures, c'est l'État qui doit avoir le contrôle. Ce qui est très différent de la pensée néolibérale contemporaine, évidemment. Donc ça, c'est essentiel. Et donc, après, l'État peut mettre en fermage, en quelque sorte. Il peut donner en location, mais il doit avoir ce contrôle. Et pourquoi, notamment, Adam Smith pense cela ? Il pense, je pense, sur l'approvisionnement en eau qui est en train de se mettre en place dans les grandes métropoles que le privé peut pas résoudre des questions de ce type. Et puis, il a un magnifique exemple de son temps. Souvent, on dit bah, c'est moderne, la gestion privée d'un pays totalement privé. Non, non, ça a existé du temps d'Adam Smith, ça s'appelle la Compagnie des Indes. Et l'homme le plus riche d'Angleterre du temps d'Adam Smith était celui qui était à la tête de la Compagnie des Indes. Et on estime, alors certains disent 5 millions, d'autres 20 millions, la gestion de l'Inde, du nord de l'Inde, par la Compagnie des Indes, a produit des famines qui auraient fait entre 5 et 20 millions de morts à l'époque, et il y a quand même une répercussion. Donc Adam Smith n'est absolument pas pour une gestion totalement privée de la société. Certains éléments, l'État doit être en quelque sorte présent pour gérer un certain nombre de questions, et c'est très différent de la pensée de Milton Friedman, de Hayek, etc., qui a été jusqu'à la proposition de dénationalisation de la monnaie, de désétatisation de la monnaie. Ce n'est pas du tout dans l'idée d'Adam Smith que le privé va tout résoudre.
Et en même temps,
une présence de l'État.
Mais dans la théorie, Jean-Michel Servet, le troc, c'est ce qui permet de faire société hors de la monnaie et hors de l'autorité du prince.
Exactement. C'est-à-dire que Adam Smith est un anti-aristocrate, hein, donc d'une certaine façon, et donc il faut en quelque sorte bien secouer les choses pour transformer en quelque sorte ce monde et permettre aux intérêts privés de se réaliser et pas de vivre dans un monde qui est dominé par une aristocratie. La chose un peu amusante, il faut quand même pas oublier quelle a été la fin de la carrière d'Adam Smith. Adam Smith était un professeur d'université et il a terminé à la tête des douanes. Donc, quand il meurt, il était à la tête des douanes en Angleterre, hein, pour les
causes. On voit que l'implication de l'État a du sens pour lui.
Exactement. Et donc, il construit un modèle, hein, qui est celui du troc, qui a une puissance théorique formidable. Mais il faut lire, pendant plusieurs années, je me suis occupé d'une nouvelle traduction qui est parue chez Economica de La richesse des nations. Donc, c'est un penseur extrêmement riche et complexe. Donc, c'est un peu, oui, c'est le genre de texte où on peut trouver un certain nombre de choses et puis le contraire, en quelque sorte, hein, parce que c'est quelqu'un qui avait voyagé aussi en France, en Italie, etc.
Il n'a pas fini d'être discuté. Alors justement, je vous propose d'écouter Catherine Audard, qui est professeure de philosophie morale et politique à la London School of Economics. Elle nous en parle justement.
C'est le mystère de l'équilibre des échanges, des marchés que Adam Smith observe, et d'un équilibre qui n'est pas prédéterminé, qui ne dépend pas d'une autorité centrale, qui ne dépend pas d'un accord, qui est plutôt un résultat mystérieux qui met en jeu la contingence, l'imprévisible, le risque, le hasard, enfin, des notions qui font un peu peur. Et justement, la pensée d'Adam Smith, enfin un de ses aspects, sera de donner un sens à cet équilibre mystérieux. Alors la métaphore de la main invisible, bien sûr, aide à faire comprendre, mais en réalité, les choses sont quand même un petit peu plus compliquées. Et même si le terme n'est pas employé, l'idée d'un équilibre non voulu, non intentionnel, est une idée effectivement centrale pour la naissance de la science économique et jusqu'à notre époque.
Voilà, on entendait la philosophe Catherine Audard dans Les chemins de la philosophie sur France Culture le 15 septembre 2011. Il y a cette idée d'équilibre non voulu, non intentionnel qui est développée par Adam Smith, cette fameuse main invisible qu'on a beaucoup caricaturée.
Oui, alors, je crois que le terme « main invisible » doit être employé 2, voire 3 au maximum fois dans les 1000 pages de La richesse des nations. Donc, il l'emploie plus sur le système des planètes. Il a écrit un article, hein, sur le système des planètes. Et là, il parle de main invisible qui décrit d'une certaine façon Dieu, à mon sens, hein. Il est déiste, je pense. Donc, c'est cet élément. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que dans la pensée d'Adam Smith, on voit apparaître l'idée qu'il y a des effets systémiques à partir du moment où il y a des interactions entre les individus et qu'il y a des éléments qui les dépassent, eh bien il y a des effets systémiques qui vont apparaître, et là ça donne tout un autre champ de la pensée économique d'une certaine façon. Et là encore, c'est une différence très très forte avec les néolibéraux, parce qu'on peut pas dire qu'au cœur de leur système, comme ils sont opposés aux macroéconomistes et aux pensées de ce type, aux keynésiens, ils mettent en avant les effets systémiques.
Et alors ce qui est intéressant, Jean-Michel Servet, c'est que cette fiction du troc permet aussi d'élaborer une théorie de la valeur indépendamment de la monnaie.
Alors, c'est ça qu'il y a d'extraordinaire, c'est-à-dire que les économistes Smith, Turgot, Beccaria, Stuart, etc., ont besoin de construire un système économique dans lequel il n'y ait pas la monnaie. C'est la grande différence avec les physiocrates. Si vous prenez le tableau économique des physiocrates, quand vous regardez les flux qui circulent dans le tableau physiocratique, ils sont en unité de compte monétaire. Quand vous prenez le système de Cantillon, qui est un économiste qui précède les auteurs que j'ai cités, c'est la même chose. Comment on passe de l'eau qui se vend dans les rues de Paris, qui est le produit du travail, et le foin coupé, qui est le produit de la nature, d'une certaine façon, le foin dans le pré, avant qu'il soit coupé, eh bien, on passe par la monnaie. C'est-à-dire que toute la pensée de l'époque, pour penser la valeur et l'interdépendance des humains, est fondée sur la monnaie, monnaie qui dépend du pouvoir politique du roi.
Et pourquoi est-ce que c'est intéressant, oui, justement, de penser la valeur sans la monnaie ?
Exactement, c'est-à-dire ce qu'il y a au cœur du système, à partir du moment où vous dites la valeur réciproque s'évalue soit par l'utilité, soit par la rareté, soit par le travail, vous êtes en quelque sorte dans un ordre naturel, vous n'êtes pas dans un ordre politique, alors qu'avec la monnaie, vous êtes dans un ordre politique. Et c'est ça la force de ces économistes classiques avec cette fable du troc, c'est d'avoir montré qu'on pouvait faire fonctionner, on suppose qu'on pouvait fonctionner, naturellement une société, et à la base de, disons, des activités humaines, il y a les échanges, qui fait cette interdépendance, selon eux, des humains. Et il faut qu'ils puissent échanger. Et ils échangent sur une base naturelle qui n'est pas la base monétaire.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission, Jean-Michel Servet. Mais est-ce que vous diriez que donc, c'est en cela, avec tout ce que nous venons d'expliquer, que le mythe du troc est au service de l'économie classique? Et est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Alors, nous sommes très très loin du XVIIIe siècle. Donc, de fait, sans fanfaronnade, très très largement, les économistes raisonnent sans théorie de la valeur. C'est d'ailleurs ce que fait, d'une certaine façon, on peut dire Keynes, hein, il raisonne de façon monétaire. Donc, la pensée économique moderne est, depuis pas mal de décennies, même si elle n'en a pas tiré toutes les conséquences et que de nombreux collègues se sentent obligés, au début de leur cours, de raconter la fable du troc, en fait, on est dans un monde qui est monétarisé dans la théorie économique. Hein. C'est une évolution considérable. Disons que la fable du troc apparaît aujourd'hui comme un résidu. Le troisième, et puis l'autre élément que je crois qu'il faut évoquer dans tout cela, c'est-à-dire que cette économie classique est fondée sur une opposition entre l'État, ou une complémentarité pour certains, entre l'État et le marché au sens de la concurrence des intérêts privés. Et puis aujourd'hui a émergé une troisième dimension qu'on appelle les biens communs, les communs, qui est la société civile, qui prend en charge un certain nombre de problèmes. Et ce troisième pilier du fonctionnement des sociétés humaines, eh bien, il n'est pas dans les économistes classiques, et je dirais même un ouvrage comme celui de Jean Tirole, qui a son titre « Commun », il y a une confusion dans l'ouvrage entre commun et bien public. Donc ça, c'est un élément, c'est une nouvelle pensée, je pense, qui correspond aussi à une revendication importante des populations aujourd'hui, sous des formes diverses, depuis le Brésil jusqu'en Italie. Donc c'est ça qui est au cœur du système. Et donc, je ne dirais pas que c'est un retour de l'ordre moral des corporations, mais c'est le retour d'un élément qui était au cœur de la pensée des corporations d'Ancien Régime.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Jean-Michel Servet. Arjuna Andrade nous a rejoint autour de la table pour nous donner des nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur la déclaration du président de la République qui expliquait que les Français allaient devoir travailler plus.
Et puis on doit travailler plus, je l'ai dit. C'est le fameux débat qu'on voit naître depuis plusieurs semaines. Et c'est un axe de travail, parce que quand je regarde la chose, la France travaille beaucoup moins que ses voisins. On rentre en moyenne plus tard, on part plus tôt et on travaille moins dans l'année.
Nous entendions donc Emmanuel Macron déclarer lors de sa conférence de presse qu'il était nécessaire que les Français travaillent plus. Cette volonté se présentant comme une manière de sortir de la crise économique et sociale actuelle. En clair, ceux qui se plaignent de gagner trop peu n'ont qu'à travailler plus. Cette augmentation du temps de travail étant également présentée comme une manière de financer le système des retraites déséquilibré par le vieillissement de la population et que le gouvernement entend rapidement réformer. Une volonté présidentielle qui permet de s'extirper des débats explosifs autour de l'allongement de la durée de cotisation, mais aussi de s'écarter de toute revalorisation du SMIC qui pèserait sur la sacro-sainte compétitivité du travail français. Au contraire, le fait d'augmenter le temps de travail serait pour ainsi dire indolore selon Emmanuel Macron, tant les Français seraient en retard sur leurs voisins en la matière.
Pourtant, plusieurs études semblent démontrer que les Français ne travaillent pas moins que leurs voisins, Arjuna.
Non, effectivement. Selon un rapport de l'OCDE, la France se placerait même devant nombre de ses petits camarades en matière d'heures travaillées par personne en emploi. En 2016, les Français ont ainsi travaillé 1526 heures, soit bien plus que l'Allemagne qui se situe en queue de classement avec 1363 heures travaillées, mais aussi devant le Luxembourg, l'Autriche, la Suède, le Danemark ou encore la Norvège. Pas exactement de quoi rougir donc. Mais un autre chiffre est particulièrement éclairant, celui du nombre d'heures travaillées par semaine. Là encore, la France est loin d'être en bas du tableau puisqu'elle travaille plus que les pays que nous venons de citer. En réalité, les endroits où l'on travaille significativement plus qu'en France sont selon Eurostat des pays comme la Roumanie, la Bulgarie ou encore la Croatie. Pas sûr qu'il s'agisse exactement du modèle social auquel aspirent les Français. D'autant que le président de la République oublie de préciser dans son intervention que les Français ont l'une des meilleures productivités d'Europe. Ils se placent ainsi juste derrière les Irlandais, les Suisses ou les Luxembourgeois, dont la richesse produite est largement faussée par leurs pratiques fiscales déloyales.
Pour une heure travaillée, un Français produit ainsi 10% de richesse en plus qu'un Allemand.
Exactement, ou même 12% de plus que les Britanniques. Comme le titrait justement l'hebdomadaire libéral The Economist, les Français pourraient ne pas travailler le vendredi, ils produiraient toujours davantage que les Britanniques en une semaine. Le magazine Alternative Économique explique dans un renversement intéressant que si nous étions aussi peu productifs que les Allemands, nous aurions pour un même PIB près de 3 millions d'emplois en plus. Dit autrement, il faut plus de personnes en Allemagne pour produire la même quantité de richesse. En réalité, ce chiffre reflète les spécificités de notre marché du travail, plus de chômage mais moins d'emplois précaires. C'est d'ailleurs le principal point noir du marché français et là-dessus que le président a pu s'appuyer. Si on prend l'ensemble des Français et plus seulement les actifs, la France est effectivement dans les derniers du classement à cause de son taux de chômage très élevé. Mais entre la libéralisation du marché du travail et l'impératif de plus travailler, on peut aussi imaginer une troisième voie où le travail serait partagé. En clair, travailler moins, mais pour travailler tous.
Last year, j'avais pas de money pour un club sandwich, mais c'est possible, buddy. Style les restes veulent me voir, put up in fact pour ça, je mets voir le money. Count money like a motherfucker. Sit shift dans mes conversations. Money making comme my mama muffin. Sit and don't get, I'm coming at you. Free boys on the lease boards, if we keep going all night. Plus on reach, growing all right. With me, fiends go so wild. Everybody wild, cacking comme blah blah blah. Pally pass, cause there ain't a pally. Now we stack mood of that cash money, like Rex, 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 Rex.
Sorry, baby, I'm in Rome. I got in charge of my phone. I got a criminal record, so I'm doing life on the road. Rolling dice on the two of us with a bunch of tourists from Europe. Got that right, I'ma paint it black and that payback is in euros. Looking back at my euro, you can tell I was made for me. Yeah, boy, I'm a playboy since day one, I don't play on it. Holy moly, that's a lot of money. Tour money, that's my only money. Young Dunny on the coast side, ring all white, nigga, out of motor.
Monnaie du groupe québécois Dead Hobbies. Merci beaucoup Jean-Michel Servet de nous avoir accompagnés tout au long de cette histoire du troc et de la monnaie. Un grand merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Lyon qui ont permis ce duplex. Demain, nous parlerons de la disparition des espèces, espèces sonnantes et trébuchantes bien entendu. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
Mets la boudin dans la feuille, c'est un party, c'est une teuf. Mets le dédo dans le club, mets le benfi dans le club. J'ai mon chant à Chocook, mon deuxième nom sur mon corps. C'est quoi les bails, c'est quoi les does? Pourquoi tu talk, j'suis quoi tu know? J'suis la prise, j'suis la plug. 220 vols, le sang va vol. C'est quelqu'un qui touche à mes boys, c'est quelqu'un qui touche à mes girls. Sont mieux n'importe, on a toutes nos histoires, on a toutes nos blessures.